Et je voulais vraiment avoir un message d'amitié à l'égard de tous mes amis mauritaniens et sahéliens.
La paix du Sahel appartient d'abord au Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel. Bonjour à tous, bienvenue dans Écho du Sahel. Pour cette dernière émission de l'année, je vous propose une rétrospective des épisodes qui ont marqué 2020. Une année riche en événements, pas toujours heureux malheureusement. Du Mali au Niger, en passant par le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, l'actualité sahélienne a été mouvementée ces 12 derniers mois. Naturellement, Écho du Sahel a essayé de décrypter tout ça avec des invités de marque, qu'ils soient journalistes, chercheurs, civils ou chefs coutumiers. D'ailleurs, lors de la première émission consacrée à l'éducation face à l'insécurité au Sahel, nous avions reçu Ismaël, enseignant originaire de la région du Soum au Burkina Faso et réfugié à Ouagadougou depuis 2017, car menacé par les groupes djihadistes. Voici ce qu'il nous disait.
C'était donc précisément le 3 mars 2017. Aux environs donc de 10 heures, mais bien avant le 3 mars, il y a eu des alertes. Et ces alertes-là ont été faites dans la zone de Baraboulé précisément, où des hommes armés ont débarqué donc, dans une classe. Ils ont trouvé donc deux de nos collègues, une dame, qu'elles ont sommé d'enlever les mèches et de ne plus jamais enseigner en français. Et l'autre collègue également. Donc, ils ont replié dans le centre, c'est-à-dire vers Thibault. Et c'est par là, juste après ça, ça représentait donc une sorte de menace. Et pour certaines personnes, ces menaces-là ont été mises donc en exécution avec l'assassinat du sieur Badini. Et c'est là que la débandade a commencé avec les enseignants donc de villes de campagne pour se retrouver un peu dans le centre. Et la peur donc a commencé à prendre tout le monde parce que ça ne faisait que continuer, des écoles qui étaient brûlées, des enseignants toujours menacés, et chacun donc se sentait en insécurité. Voilà donc ce qui nous a amené donc à quitter un peu dans la zone. On ne pouvait plus rester dans le poste, ou on ne pouvait plus rester même à une centaine de kilomètres du poste, parce qu'il y avait cette hantise-là, il y avait cette peur-là qui a déjà fini par s'installer. On tue votre collègue et après on vient vous rendre visite. C'est pas de la joie. Je n'ai pas été le seul à être menacé. Il y en a d'autres aussi. Et il y en a qui ont vu des hommes armés s'arrêter sur eux, les menacer, les partir. Certains ont pété les plombs. Certains n'ont même plus le goût encore d'enseigner, de travailler. J'en connais des collègues, s'ils sont dans la classe, s'ils jettent le regard vers les fenêtres et ils voient les motos passer, alors là, c'est fini. Ils ne peuvent plus donc continuer. Ça veut dire qu'il y a cette hantise-là, il y a cette peur-là qui reste toujours à ces personnes-là.
Alors que nous venons d'apprendre ce 25 décembre le décès de l'homme politique malien Soumaïla Cissé, son enlèvement et sa libération le 9 octobre dernier en compagnie de la Française Sophie Petronin et de deux autres otages italiens ont marqué cette année. C'est une négociation entre l'État malien et le JNIM qui a permis la libération des otages, ce qui a relancé le débat suivant. Faut-il aller plus loin et négocier la paix avec les groupes armés du Sahel ? Pour en parler, nous avions eu l'honneur de recevoir Amirou Ousmane Diko, émir du Liptako, et le grand reporter Lemine Oul Salem, spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel.
Cela fait 7 ans qu'il y a une opération militaire d'envergure contre les groupes djihadistes qui étaient d'abord limités au seul nord du Mali et qui aujourd'hui se sont répandus dans toute la sous-région, surtout le Burkina, donc le pays de Son Altesse, qui est aujourd'hui quasiment à la moitié aujourd'hui quasiment ingouvernable, c'est-à-dire quasiment toute la moitié nord du Burkina Faso n'est plus aujourd'hui sous le contrôle réel et effectif de l'État. Alors faut-il ou pas négocier, ou faut-il continuer la guerre à un moment donné? Je pense que de toute façon tous les conflits finissent toujours par une négociation. On l'a vu en Afghanistan, on l'a vu en Irak, on l'a vu même en Somalie, quelle que soit par ailleurs la situation actuelle de la Somalie. On l'a vu en Algérie avec l'insurrection islamiste des années 90, elle a fini bien sûr par une forme de compromis entre les maquisards islamistes et l'État algérien. Et pourquoi pas au Sahel, la question se pose.
Nous voyons depuis des années le lourd tribut qui est payé par les militaires, autant par les civils. Et si ça, c'est ne pas faire fermer l'idée de discuter d'une solution, de solution plutôt de dialogue, avec qui que ce soit. Mais je ne vois pas quelle est l'autre solution que de dialoguer. Hein?
C'est
il n'y a pas une semaine, sans qu'on ait des conflits communautaires, avec leur engrenage de violence, théorie et représailles. Il faut bien sûr dialoguer. Et nous avons des mécanismes, les communautés ont leurs propres mécanismes de dialogue. Arrêtons d'importer des mécanismes qui viennent d'ailleurs. Nous en avons. Nous avons notre propre système de loi algérien.
Face à ces groupes djihadistes qui sévissent dans la région ces derniers mois, les armées des pays du G5 Sahel ont payé un lourd tribut. On se souvient notamment de l'attaque de Chinédogar au Niger le 9 janvier dernier, avec un terrible bilan de 89 soldats tués. Il s'agit de la pire attaque terroriste de l'histoire du Niger. Par la suite, un scandale sur de supposés détournements des budgets de la défense est sorti dans la presse nigérienne. Moussa Aksar, journaliste chez nos confrères de l'événement au Niger, qui a sorti ces révélations, est venu nous en parler. Moussa, concrètement, que montre votre enquête ?
Notre enquête montre qu'il y a eu 71,8 milliards de francs CFA qui ont été détournés au ministère nigérien de la Défense. Il se trouve que c'est entre 2017 à 2019, sur 133 milliards qui ont été injectés, 71 ont été détournés, ce qui représente 40% du budget et 40% de ce budget-là. L'enquête continue, puisque entre 2011 à 2020, c'est le budget qui a été injecté, c'est à peu près 515 milliards de francs CFA.
Mais sous quelle forme ces sommes ont été détournées ? La surfacturation, des rétrocommissions, pouvez-vous nous expliquer ?
Je vais vous expliquer comment est partie l'enquête. Nous nous sommes retrouvés avec le Consortium international du journalisme d'investigation ICIJ, dont je suis membre. Il y a 10 mois de cela, nous nous sommes retrouvés. Nous avons vu des mouvements de comptes, des mouvements de fonds douteux qui quittent les pays de l'Est pour le Niger. À un certain moment, nous nous sommes dit que dans cette base de données, il y a des gens qui financent le terrorisme. En poursuivant notre enquête, nous avons trouvé que ce sont des rétrocommissions de certains marchés qui ont été attribués à des fournisseurs ukrainiens et russes. Ensuite, en poursuivant toujours cette enquête, nous avons trouvé des sociétés offshore qui sont liées maintenant à ce rapport quand il a été et quand il y avait eu la fuite par le ministère nigérien de la Défense. Quand les politiques détournent de l'argent, on ne peut pas dire qu'elles ont conscience, mais vous voyez, avec ce détournement, et ici au Niger et un peu partout dans cette zone, c'est que c'est l'inconséquence du politique qui nous amène à cette situation-là.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. Sahel, Sahel, Sahel. Écho du Sahel.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Ce qui ignore me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. Jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec et souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Yaoundé, j'ai trop souffert. Ce qu'ils ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi, ne retourne jamais dans ma capitale. Jaloux saboteur.
Vous écoutez Écho du Sahel et vous avez raison. C'était le titre Les Jaloux Sabotaires de Feu Maître Gazonga, le célèbre chanteur tchadien. Nous sommes toujours dans la rétrospective de 2020. Dans la première partie de l'émission, nous avons évoqué les attaques djihadistes, mais un autre aspect de la crise sécuritaire a fait les gros titres des journaux, les conflits interethniques. Mais qu'est-ce qu'un conflit interethnique ou intercommunautaire? D'ailleurs, quel est le qualificatif approprié? Existe-t-il une définition? Nous avons posé ces questions à Fahiraman Rodrigue Koné, socio-anthropologue, et chercheur à l'African Security Sector Network.
Globalement, quand on parle de conflits communautaires, c'est en général des conflits qui vont impliquer des groupes sociaux, comme de façon ordinaire les conflits qu'on appelle les conflits sociaux. Mais ici, l'élément spécifique ici, c'est l'identité des acteurs qui sont impliqués dans ce type de conflits-là. C'est-à-dire leur engagement ou les antagonismes qui sont au cœur de cette tension ou de la fracture sont guidés par, comme je disais, l'identité des personnes qui sont engagées dans ce groupe, et chaque acteur va revendiquer au nom de son engagement dans le conflit, cette identité-là, qu'elle soit de type ethnique, qu'elle soit religieuse, ou même souvent un peu professionnel, ce type d'identité-là se structure donc cette dimension communautaire, communautariste de l'engagement dans le conflit. Donc quand on parle de conflits, par exemple, interethniques, ce sont des conflits, conflits communautaires où l'identité ethnique des acteurs constitue l'élément primordial et justificatif de l'engagement de ces acteurs-là dans le conflit, soit pour défendre, je dirais, la communauté qui se sentirait menacée, ou du moins pour défendre un bien de la communauté, mais au nom, en tout cas, de la communauté, on s'engage dans le conflit avec l'imaginaire que nous défendons, nous protégeons cette communauté-là.
Pour lutter contre toutes ces formes d'insécurité, la présence de forces militaires étrangères s'est multipliée, voire superposée de façon impressionnante au Sahel ces 10 dernières années. 5100 soldats français de l'opération Barkhane, 13000 casques bleus de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali et les forces américaines. Mais sur le terrain, les résultats se font attendre au point de parler d'enlisement, voire d'ensablement. Conséquence, dans certains pays, on a pu voir des manifestations demandant le départ de ce qu'ils nomment des forces d'occupation. Nous avons demandé à Niégalé Bagayoko, président de l'African Security Sector Network, et Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS, Institut d'études de la sécurité à Bamako et au Mali, si les armées étrangères sont en situation d'échec au Sahel et comment elles sont perçues par les populations locales.
Il n'y a pas d'un côté des gens qui pensent que la présence de Barkhane est positive, et de l'autre des gens qui pensent qu'elle est négative. Je dis juste qu'il y a des nuances de gris qu'il faut prendre en considération. Je reviens à mon exemple de Gao ou voire même de Tombouctou. Les gens que je rencontre quand je vais en mission dans ces deux régions me disent, mais on comprend la mission de Barkhane. Nous pensons que sa présence est nécessaire, mais nous ne sommes pas sûrs d'en voir une grande utilité. Je crois que c'est là où se situe la nuance. Il y a des gens qui ont une vision, plus nuancée de Barkhane en disant, mais sa présence rassure, elle évite que des groupes armés terroristes qui menacent nos localités ou nos régions ne prennent le contrôle de ces territoires ou ne reviennent en force, alors que dans les capitales, on a des avis beaucoup plus tranchés et des avis beaucoup plus incisifs sur la question. Barkhane n'est pas utile, sa présence ne sert absolument à rien, il faut que les Français s'en aillent. Et c'est là où se situe la différence entre les deux approches et les deux visions.
Niégalé Bagayoko, justement, du côté français, du côté état-major, est-ce qu'on a pris conscience de ces questions que se posent les Sahéliens?
Le président Macron avait demandé au sommet de Pau à ce que ses homologues du G5 Sahel réitèrent sans ambiguïté leur volonté de voir se poursuivre le déploiement français sur leur territoire. Et en effet, c'est ce qui s'est produits. Les chefs d'État l'ont en effet reformulé et appelé de leur vœu. Donc je pense qu'il y a aussi côté français la peur, bien sûr, de sombrer dans ce qu'on appelle le piège sahélien, avec une difficulté à acquitter l'engagement et à trouver une exit stratégie. Il y a, à mon avis, beaucoup de réflexions aujourd'hui qui sont menées pour savoir s'il faut poursuivre et de toute façon comment un jour se retirer de ce théâtre. Mais voilà, je ne pense pas que de toute façon les protestations que l'on a vues aient considérablement modifié le type d'engagement choisi.
La crise sécuritaire du Sahel a provoqué l'une des pires crises humanitaires de son histoire, avec près de 2 millions de déplacés internes et quelques 850 000 réfugiés. Chaque jour, des milliers de personnes sont obligées de fuir leur maison à cause de l'insécurité au quotidien. Une crise humanitaire qui n'a pas laissé insensible le chanteur sénégalais Bam Mal. Ce fils du Sahel, originaire du Fouta sénégalais, a lancé un cri du cœur dans une tribune sur la situation d'urgence au Sahel, publié dans le journal français Le Monde.
Je suis vraiment peiné et j'ai mal au cœur de voir que, au lieu d'aider cette population, surtout sur le continent africain, cette population qui doit quand même donner un très bon exemple au reste du monde, parce que partout où nous allons pour exercer notre art, notre musique, jouer de la musique, on nous dit que l'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc l'Afrique, c'est un continent sur lequel le monde entier compte pour quand même arriver à un autre niveau de d'épanouissement. Si sur ce continent, on voit par exemple dans la bande du Sahel toutes ces migrations, mais ça fait mal au cœur, d'autant plus que nous savons que c'est une partie de l'Afrique où, qui a été propice à beaucoup d'échanges, d'échanges sur le plan culturel, comme je l'ai dit tantôt, d'échanges sur le plan, par exemple, entre le nord et le sud pour que l'Afrique subsaharienne puisse avoir accès à tout ce qui vient du nord. Je pense que les gens passent par le Sahel. Et donc, mais pour que tout cela puisse arriver à bon port, je pense qu'il faut d'abord s'occuper des populations. Il faut vraiment essayer de tout faire pour que cette Afrique qui maintenant dit que nous devons jouer ce rôle de leadership, puisse quand même jouer ce rôle à bon escient. Donc je ne pense pas que ce soit exactement correct que les gens ferment les yeux. Il y a aussi l'éloignement les uns entre les autres qui fait que tout cet échange qui a existé dans le Sahel, qui a donné naissance à toute cette beauté sur le plan culturel que les gens magnifiquent un peu partout dans le monde, n'aura plus de place parce que quand il y a un proverbe populaire qui dit « Quand on a comme priorité la survie, on néglige aussi la créativité, on néglige aussi d'autres priorités. » Donc, et je pense que la culture doit quand même rejaillir pour ramener les enfants du Sahel de toutes les couches confondues, de toutes les ethnies confondues à dire que c'est notre avenir qui est en jeu. Nous devons tous bâtir cet avenir ensemble et éviter que d'autres esprits viennent nous diviser.
C'est la fin de cette émission rétrospective de l'année 2020. Une année qui n'a pas été facile avec la crise sanitaire mondiale du Covid-19. Une grosse pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés cette année. Que vous soyez à Djibo, Gao, Tillabéri, Kaédi, Paris ou autre part dans le monde, je vous souhaite une excellente année 2020, pleine de santé. Le reste viendra car c'est l'essentiel. Et je terminerai sur cette citation. La santé est une couronne placée sur la tête des gens en bonne santé que personne ne peut voir, hormis une personne malade. À très vite dans Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel.
Écho du Sahel. 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 Écho du Sahel.